Bourgeoise. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment protéger sa vie privée sur Internet? Vous le savez tous, les voisins, votre nom, vos contacts, vos photos, vos préférences, vos opinions politiques, religieuses sont stockées, déballées ou vendues sur Internet si vous existez sur les réseaux sociaux, sur des sites, notamment des sites marchands. Avec le nouveau règlement général de protection des données personnelles, les Européens vont pouvoir être mieux protégés que sur les autres continents, mais à condition de bien connaître le fonctionnement de la toile. Alors plus globalement, devons-nous tous, partout dans le monde, changer nos comportements pour préserver notre intimité, donc notre liberté? Peut-on faire effacer des données? Nous allons en discuter avec nos invités. Nathalie Devilliers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, vous partagez vos analyses et vos conseils dans la chronique Jurygeek sur The Conversation. Tout est noté d'ailleurs sur la page de notre émission sur RFI.fr. The Conversation, c'est un média en ligne d'information et d'analyse indépendant et qui publie des articles grand public écrits par des chercheurs, des universitaires comme vous. Vous êtes à Grenoble avec les moyens
tout
techniques de France Bleu Isère. Merci d'être avec nous, Nathalie Devilliers. Tristan Mendès-France est avec nous dans le studio à Paris. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes enseignant au CELSA, c'est l'école de journalisme et de communication à Sorbonne Université. Vous enseignez les nouveaux usages du numérique. Vous nous direz d'ailleurs comment vous percevez les mentalités, les usages des toutes nouvelles générations. Et quant à vous, les voisins et les voisines, on attend vos témoignages, vos questions, y compris les plus pointues. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp, bien évidemment, c'est le même numéro. Et vous pouvez nous faire part aussi de vos naïveté, de vos inquiétudes sur la protection des données numériques.
Sept milliards de voisins. C'est sur RFI.
Et tout de suite, je vous propose d'écouter la réaction d'un premier voisin qui a posté son message sur WhatsApp.
Bonjour, Victor Emmanuel, 32 ans, je vis à Cotonou. Pour ma part, je suis sceptique quant au fait qu'on puisse disparaître d'Internet ou des réseaux sociaux une fois qu'on s'inscrit sur un site ou alors quand on est utilisateur d'une application. Parce que, à ce que je sache, il y a des serveurs plus ou moins gigantesques de toutes ces entreprises-là qui stockent toutes les données et puis supprimer un compte ou bien effacer l'historique ne supprime pas forcément les choses des serveurs. C'est vrai qu'il y a de nouvelles réglementation en vigueur, bon, on prend pas souvent la peine de tout lire, même déjà au niveau du règlement lorsqu'on s'inscrit, ce qui est dommage. C'est vrai qu'on peut aussi éliminer les cookies en surfant en mode masqué et tout ça, mais je ne pense pas qu'on puisse disparaître totalement. Alors ma question est la suivante, est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer ces niveaux de sécurité, de protéger davantage la vie privée, non seulement avec les normes européennes dont on parle tous ces derniers jours, mais aussi toutes les autres normes? Merci.
Bonjour, je m'appelle Farahman, je suis d'Iran et je voudrais vous poser une question. Les nouvelles règles européennes protègent les données personnelles ou la vie privée. Je voudrais savoir comment ces règles peuvent protéger la vie privée des internautes. Merci.
Voilà, alors on a des questions très générales sur ce que va changer ce nouveau règlement général de protection des données personnelles. Pour revenir à la question de Victor Emmanuel qui postait du Bénin, il parle des nouvelles normes européennes, voire d'autres normes à l'heure actuelle. Quelles sont les autres normes, Nathalie Devilliers, puisque dans l'actualité, pour l'instant, c'est l'Europe, le nouveau règlement général de protection des données personnelles adopté par le Parlement européen.
Oui, tout à fait. Ce règlement vient harmoniser le patchwork de législation nationale qu'on avait au sein des États membres, donc les 28 États membres, pour justement permettre à tous les usagers, en fait toutes les personnes physiques, le règlement emploie ce terme, il n'est pas question de résidence ou de citoyenneté, de bénéficier d'un même niveau de protection. Donc c'est la nouveauté pour l'Union européenne. Au-delà de ça, dans le monde, surtout depuis les cyberattaques Petya, WannaCry, on a eu beaucoup de législations qui ont été adoptées, mais c'était plutôt pour provoquer un mécanisme, créer un mécanisme dans les entreprises pour générer une alerte, une notification de faille de sécurité techniquement. Donc c'était plutôt dans ce cadre-là qu'on a eu beaucoup de mouvements depuis 2 ans sur les cadres législatifs.
Mais concernant les personnes physiques, les usagers, les internautes, les personnes lambda, les citoyens, c'est vraiment la première fois qu'on a un vrai règlement général.
Tout à fait. C'est une grande nouveauté. Il faut rappeler qu'antérieurement, on avait une directive en 95 qu'on avait transposée très tardivement en France en 2004. Et ce cadre juridique était complètement obsolète déjà sur le plan technique. La directive avait été négociée pendant X années à l'époque où on utilisait un Minitel. Donc bonne chance à ceux qui se rappellent de ce que c'était qu'un Minitel. Moi, j'en avais un chez moi.
Nos auditeurs sont trop jeunes pour ça, oui.
Voilà, je crois aussi. Et donc, elle était obsolète sur le plan technique. Et puis aussi, par rapport aux nouveaux moyens de communication, donc ont été cités notamment, à juste titre, donc tous les sites, donc les sites marchands, notamment les sites d'e-commerce, les applications mobiles, ensuite les différents traceurs qui sont utilisés sur le web. Et puis, comme l'a justement fait remarquer notre premier contributeur, les données ne sont pas dans votre interface de navigation, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur. Elles sont effectivement pas dans les nuages non plus. Très souvent, on nous dit c'est dans le cloud. Mais non, c'est pas en train de planer au-dessus de nos têtes. C'est sur des serveurs physiques auxquels non seulement les entreprises ont accès, mais aussi d'autres entreprises.
On va y revenir, bien sûr. Hein, on a beaucoup de questions sur ces sujets-là. Mais déjà, qui est concerné par ce règlement général de protection des données personnelles européen? Vous parliez de personnes physiques. Le voisin qui nous poste le message d'Iran, là, que vous avez entendu. Sa question, c'est de savoir si lui, il peut être concerné par ce règlement général européen en étant en Iran.
En étant en Iran, non. Par contre, le jour où il viendra mettre le pied sur le territoire de l'Union, il sera une personne physique dont les données seront captées depuis le territoire de l'Union. Et ensuite, en fait, le règlement, on dit qu'il s'applique de manière extraterritoriale, c'est au regard justement des serveurs, des responsables de traitement qui opèrent leurs activités sur ces données, puisque les données ne sont pas obligatoirement hébergées sur le territoire de l'Union. Ça, par contre, on ne l'a pas imposé. Elles voyagent dans le monde et la protection suit la donnée où qu'elle soit dans le monde.
Alors, ça veut dire, du coup, Tristan Mendes France, que un internaute africain qui est en Afrique, mettons, Victor Emmanuel qu'on a entendu, qui est à Cotonou, il achète sur un site marchand français, basé en France. Est-ce qu'il peut voir ses données plus protégées grâce au règlement européen ou pas du tout?
Logiquement, il faut mieux demander à ma camarade juriste, mais a priori, le site marchand est contraint de gérer toutes ses bases de données en respectant les règles de base du RGPD. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être juste ricocher sur
un fichier global, il se demande pas où sont ses clients physiquement.
Ben non, il doit appliquer.
Vous confirmez Nathalie Devilliers ou pas?
Oui, je reprends tout de suite et je vous repasse la parole pour vous vouliez compléter votre réponse et rebondir. C'est tout à fait correct. Par définition, dès lors qu'un internaute, où qu'il soit dans le monde, est en relation avec une entreprise qui est sur le territoire de l'Union, peu importe même la langue du site, même s'il n'est pas natif speaker en anglais ou en allemand et qu'il utilise un de ces sites-là, ce site-là, lui, par contre, oui, il doit respecter le cadre juridique de l'Union européenne, donc respecter le RGPD. Imaginez-vous bien, l'entreprise ne va pas faire le tri entre d'où viennent mes connexions, est-ce qu'elles viennent de tel pays ou tel autre, surtout quand on passe par le dark web, par définition, la dernière connexion n'est pas la bonne.
J'aimerais peut-être juste rebondir sur la première réaction du premier auditeur qui se posait la question toute simple de savoir est-ce qu'on peut disparaître du web. Alors j'aimerais lui donner une piste de réflexion là-dessus. Je crois qu'il est très difficile de disparaître du web, quelles que soient les réglementations qui sont mises en place. Et j'aimerais peut-être juste donner un exemple que je trouve assez fascinant et intéressant, qui est celui d'un site américain créé en 96 qui s'appelle archive.org, qui est une association à but non lucratif qui est basé en Californie et qui référence et qui flash, qui prend photo, si vous voulez, des milliards de sites web depuis 1996, même des sites web qui disparaissent. Hein, donc si vous avez laissé, si vous aviez un vieux blog, si vous aviez laissé des commentaires quelque part,
dans
et ça a été flashé, c'est pour référencer le web mondial, hein, la mémoire des humains du monde. Ils en sont quasiment à 300.
C'est là que travailleront les futurs historiens du web.
Oui, et déjà, c'est une base de données qui est fascinante, qui est quasiment 300 milliards de pages ont été référencées aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, simplement, c'est que du moment que ces pages du web ont été référencées sur archive.org, elles y restent. Alors, il y a des démarches possibles pour essayer d'en retirer quelques-unes, c'est très compliqué. Mais encore une fois, pour s'effacer du web, avec des outils comme ça, avec des structures comme ça, ça devient quasiment impossible.
Que prévoit exactement Nathalie Devilliers, donc le nouveau règlement général de protection des données, quand on va sur des sites, que ce soit des sites marchands, sur d'autres types de sites, très concrètement, quelles sont les principales mesures de ce nouveau règlement européen?
Alors la première chose qui se passe, on va prendre la démarche de l'utilisateur qui se connecte, et la première chose qu'il voit et qu'il verra toujours, c'est ce qu'on appelle le bandeau des cookies ou bandeau des traceurs. Et dans ce bandeau, alors ça dépend, parfois il est en bas, en haut, parfois il est très bien écrit, parfois il n'est pas super bien. Donc les entreprises feraient bien d'ailleurs d'aller se connecter à la CNIL pour aller regarder comment on fait un bandeau des traceurs.
C'est la Commission nationale effectivement de l'informatique et liberté.
C'est ça, c'est l'entité qui en France supervise la mise en œuvre du règlement et recueille aussi bien les plaintes.
Donc il faut bien lire ces petits bandeaux qu'on avait tendance, parce qu'ils nous gênaient, à effacer, à cliquer sur la croix pour ne plus nous gêner et voir ce qu'on voulait voir. Il faut bien les regarder maintenant.
Fait. Et il faut savoir que la poursuite de la navigation sur le site, alors même que vous n'avez pas fermé le bandeau, vous avez juste cliqué fermer et donc pas accepter, ne permet pas de collecter les données à caractère personnel. Puisqu'en fait, là, on est en train tout simplement de dire, attention, vous entrez sur ma page, donc à partir de maintenant, je vais observer votre navigation. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement observer la navigation de quelqu'un? Ça veut dire savoir quels sont les mots-clés qui sont mis, on va garder tous vos mots-clés, on va bientôt récupérer votre adresse IP. Ensuite, on va regarder sur les liens sur lesquels vous cliquez, ce que vous mettez dans votre panier, ce que vous retirez. Et puis, il y a une nouvelle technique que moi, j'avais lue sur un tweet, la Session Replay Script. Donc, c'est la façon, en fait, de recréer, quand vous bougez votre souris sur l'ordinateur, on voit une flèche. Eh bien, il existe une technologie qui permet de conserver les mouvements de cette souris et donc d'analyser comment... Alors là, on se met vraiment dans votre tête... d'analyser comment vous faites pour finalement aller cliquer à droite plutôt qu'à gauche. Donc ça va vraiment très loin et ça va aller de plus en plus loin avec
une caméra installée sur votre ordinateur ou presque. Mais alors concrètement ces cookies, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors quand le bandeau apparaît, voulez-vous accepter
Alors justement sur ce bandeau d'ailleurs renvoie assez systématiquement à une page assez mystérieuse qu'on appelle politique de confidentialité et qui est maintenant une sorte d'injonction, en tout cas le règlement général incite donc tous les sites web, toutes les entreprises et pas uniquement, d'avoir une page qui explique assez clairement la politique des confidentialités. Ce qui est assez surprenant encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des incitations, et la CNIL d'ailleurs fait des suggestions pour les entreprises, et j'en conseille quelques-unes, et c'est assez général comme suggestion. Ils disent aux entreprises, soyez plus clairs. Faites en sorte effectivement de pas avoir ces paragraphes en pâté qu'on voit écrits en tout petit qui sont à la fois illisibles, incompréhensibles, qui sont.
C'est une recommandation, pas une obligation.
Oui, voilà, c'est plus une incitation. D'ailleurs, le RGPD de façon assez générale est vraiment un package de textes qui incite les entreprises à prendre conscience des données qu'elles ont. Je conseille quelques structures et quelques petites PME et on voit bien combien c'est compliqué d'ailleurs pour les entreprises de faire cette transition. Ils doivent prendre conscience des données qu'ils ont. Les entreprises ne savent pas toujours très très bien quel type de données elles ont. Il y a des données sur le web, mais il y a aussi les données internes, les bases de données des propres des entreprises qu'elles ont en interne.
Concrètement, si on n'accepte pas la politique de cookies du site marchand ou pas sur lequel on est, est-ce qu'on peut ne pas l'accepter tout en continuant à surfer?
Oui.
Sans problème.
Alors, on vous fait souvent croire que ne pas les accepter va bloquer des fonctionnalités du site. C'est comme un petit peu sur les réseaux sociaux et puis les jeux. Les jeux, même de réalité augmentée, etc. On vous dit très souvent, si vous coupez telle et telle fonction, qui sont en fait des paramètres de confidentialité, vous ne pourrez plus profiter.
Donc ça, c'est de l'intox.
C'est très ambigu. D'ailleurs, moi, le lundi matin, j'utilise beaucoup Twitter, donc j'avais fait une capture d'écran de la politique de Twitter, et tout était coché par défaut. Donc tout était en clair, enfin c'est-à-dire que j'étais censée tout partager, alors que dans le règlement c'est l'inverse. Il y a un principe de protection de la vie privée par défaut et dès la conception. Ça veut dire que dès la conception de mon outil, je dois prendre l'option qui protège le plus l'utilisateur et donc ne pas cocher moi-même par défaut que je veux capturer cette donnée. Et là c'était déjà pas le cas. Et les politiques de confidentialité, les conditions générales, si on devait tous lire les CGU et politiques de confidentialité de toutes nos applis, de nos sites d'e-commerce, je pense qu'on y dépasserait tous plusieurs années.
Oui, sauf erreur de ma part, je crois, si c'est pas, il y a Instagram ou Flickr qui semblait dire si vous n'acceptez pas les conditions, ben en gros on vous invite à quitter la plateforme. Il y a aussi ce, j'ai vu en tout cas ce cas-là, alors sauf erreur de ma part, ce qui est quand même une pression énorme faite à l'usager d'accepter simplement les conditions quelles qu'elles soient.
D'ailleurs, dans le règlement est entré en vigueur lundi. On a tous reçu plein d'emails nous disant « c'est super, on a mis à jour nos politiques de confidentialité » ou alors des emails un peu agressifs qui nous disaient « il faut vous réinscrire, sinon on va se dire bye-bye ».
Ou au contraire, on pouvait aussi recevoir moins d'emails parce que si on donne pas son consentement à certaines newsletters, on est automatiquement effacé du fichier, non, me semble-t-il ? Ou pas ?
Non, là, on doit recueillir de nouveau votre consentement pour que vous ayez conscience d'être dans la newsletter. Et alors
ça,
le site est franc et ne collectera pas et vous demande votre consentement, le récupère et donc oui, il y aura envoi de newsletter.
Et donc si on répond pas, c'est ça. Si on répond
continue,
pas, on est donc éjecté.
En principe, oui. Par contre, regardez tous les emails qu'on a reçus. On nous affirme qu'ils sont en ligne, qu'ils s'alignent avec le règlement, mais qui va aller faire la vérification ? C'est pas les usagers qui vont aller vérifier.
Alors, on avance sur les grandes questions parce que les minutes passent vite dans l'émission. Que faire sur les navigateurs que l'on utilise pour ne pas être pisté par des cookies ? Est-ce qu'il faut changer nos paramètres de navigateur ? Est-ce qu'il faut aller dans les outils, voir tout ce qui est coché, vie privée, sécurité, etc. Des choses qu'on ne faisait pas traditionnellement auparavant.
Oui, enfin, il y a plusieurs choses à faire. Après, c'est le packaging, c'est assez général. C'est ça qui est, il y a pas une solution à chaque fois. C'est toujours une sorte d'hygiène générale, numérique générale qu'il faut avoir éventuellement en ligne. Ça va de la navigation privée qu'on active sur chacun de ces navigateurs. Navigation privée qui, anonymise une partie de votre activité en ligne, seulement une partie. Il y a aussi le choix du moteur de recherche. Ça n'est pas la même chose. Des fois, les gens font un peu le lien entre navigateur et moteur de recherche. C'est pas la même chose.
Donc, moteur de recherche, c'est Google. Est-ce qu'il faut quitter Google définitivement? Est-ce qu'il faut préférer des navigateurs comme Quant ou DuckDuckGo, par exemple?
Exactement. Ça, c'est les
deux. Qui ne revendent pas les données?
Oui. Et surtout, qui, soi-disant, n'exploitent pas, et ne gardent pas simplement les données de navigation. Il n'y a pas d'historique. Ils ne gardent, vous êtes, soi-disant, protégé. C'est ce que disent ces structures-là.
Ce qui peut aussi avoir le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'ils savent pas sur quoi on travaille et ils vont, par exemple, on peut faire une recherche sur laquelle on va être mal aiguillé, alors que comme Google stocke tout, Google sait mieux quoi nous proposer, par exemple, non ?
Oui, c'est le principe de tous ces services-là, c'est qu'ils vous proposent en échange quelque chose. C'est comme le fait de se faire géolocaliser, c'est pas très rassurant pour, disons, nos données personnelles, mais parfois ça peut nous aider à nous retrouver quand on est perdu en ville. Il y a toujours une balance
entre... Sur le GPS, il vaut mieux être géolocalisé.
Oui, mais quand on se géolocalise, évidemment, on donne des données à des structures qui sont parfois pas nationales. Oui. En tout cas, des structures dont on ne sait pas très bien ce qu'elles vont faire avec.
Nathalie Devilliers, là-dessus, qu'est-ce qui va changer ?
Alors là-dessus, par exemple,
sur les moteurs de recherche, sur les navigateurs,
sur les navigateurs, justement, j'ai fait une expérience avec mes élèves et je leur ai demandé d'aller exercer leur droit d'accès, c'est-à-dire à demander leurs données à caractère personnel sur des moteurs de recherche, leur page Facebook ou n'importe quelle application qu'ils pouvaient avoir. Et par exemple, oui, j'ai une élève qui est revenue 15 jours après. Alors, ils étaient tous, en plus, et là, par contre, ça va concerner nos auditeurs, ils sont alors jeunes, ils sont tous connectés, ils sont génération XYZ++, mais en réalité, ils sont les moins à même à gérer tout ça. Parce qu'au début, ils ont dit, mais madame, on n'a rien à cacher, pourquoi est-ce qu'on irait demander ça ? Je dis, on va faire l'expérience, c'est juste pour l'apprentissage. 15 jours après, j'ai demandé, avez-vous des réactions ? Tout le monde levait la main, en particulier une élève qui m'a dit, madame, regardez, Google Maps m'a donné le tracé de ma balade, je suis allée en Normandie, j'ai marché sur cette plage. Là, après, par contre, on perd le signal, mais après, on voit que je suis remontée dans telle rue à telle heure.
Comment elle a obtenu ces informations que détenait le moteur de recherche Google sur elle ?
J'ai demandé à mes élèves d'aller faire, c'est une chose qui est très simple, vous allez sur n'importe quel moteur ou alors site internet dont vous êtes utilisateur et vous exercez votre droit d'accès à vos données personnelles. Donc vous allez concrètement tout en bas, très souvent il y a marqué contact, vous envoyez dans l'objet demande d'accès à mes données à caractère personnel.
Vous remplissez un formulaire, c'est un formulaire.
Tout simplement. Et on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un formulaire en ligne. Hein. Après, sur certains sites, vous pouvez télécharger vous-même vos données. Par exemple, avec Facebook, en 5 minutes, on a tout.
Oui,
et on
ça.
A des bonnes surprises avec Facebook. Hein.
Bon, faut faire le test.
Parce qu'on récupère...
Oui, sur Google et Facebook, on peut effectivement télécharger tous les contenus que eux ont sur nous. Et c'est parfois assez vertigineux. Il y a même des choses qu'on a pu effacer de nos activités qui parfois réapparaissent malgré tout dans les contenus qu'on télécharge de ces différentes plateformes.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone de notre standard. Vous pouvez aussi nous appeler sur WhatsApp. Comment protéger sa vie privée sur Internet? Eh bien, malgré le nouveau règlement général européen, on peut se poser des questions à l'occasion, donc en effet, de la mise en place de ce règlement. Vous êtes avec nous, Nathalie Devilliers, Tristan Mendes France, tous les deux spécialistes de ces questions. On prend vos appels dans quelques instants. Ce sera juste après, ailleurs, Grand Blanc. De voisins ailleurs, Grand Blanc. Aujourd'hui, protéger sa vie privée sur Internet. On est en direct à l'occasion du nouveau règlement général de protection des données personnelles adopté par le Parlement européen. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Qui est concerné aussi sur les autres continents, sur le reste du monde? Nous en discutons avec vous, Nathalie Devilliers, juriste. Il faut suivre votre chronique JuriGeek sur le site indépendant The Conversation. Tristan Mendes France, enseignant au CELSA Sorbonne Université sur les nouveaux usages du numérique. On accueille un auditeur qui nous appelle sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro qui doit normalement être entré dans vos contacts puisque nous sommes tous pistés les uns les autres. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal, vous êtes en Chine. Où êtes-vous exactement?
Je suis dans la ville de Nanjing, en Chine.
D'accord. C'est à 300 km de Shanghai, hein, c'est bien ça?
Ah oui, oui. Approche.
Vous souhaitez vous exprimer sur le problème du vol des données personnelles en Chine?
Oui, oui, c'est ça. Tout d'abord, très heureux de vous retrouver.
Ah ben nous aussi.
J'avais travaillé en Afrique et j'écoute souvent RFI. Uh-huh. En Chine, on n'a pas vraiment de chance puisque le Google était interdit en Chine. Et le seul moteur de recherche, ça s'appelle Baidu.
Oui.
Et souvent, quand je fais la recherche des données, les recherches, quand les résultats sortent. Et après, quand je navigue sur l'autre site, il y a plein de produits ou soit quelque chose de similaire qui saute comme la publicité des résultats que j'avais recherchés. Donc la première chose, que les moteurs de recherche, ils vendent nos informations. Et deuxième chose, quand je fais m'inscrire sur des logiciels, par exemple pour les réseaux sociaux,
oui.
Et on est obligé de mettre le numéro de portable personnel.
Mm-hmm.
Il y a des choses très bizarres. Parfois, par exemple, il y avait une fois que j'habitais à Shanghai, Je faisais la recherche de location. J'ai fait m'inscrire sur un logiciel de location.
Pour trouver un logement sur un site d'agence immobilière.
Oh, oui, c'est ça.
Oui.
Et le lendemain matin, je reçois 21 appels concernant la location. Et j'ai pas encore lancé la recherche, juste l'inscription de mon compte.
Oui.
Et depuis ce moment-là, je reçois déjà les appels immobiliers.
Mm.
Et ça s'arrête pas. Et depuis ce moment-là, je reçois presque 20 d'appels tous les jours.
Oui. Et vous avez vécu 7 ans en Chine, vous avez passé plusieurs années, en Afrique, et vous avez dit au standard que ça n'avait rien à voir, évidemment.
Je pense qu'en Afrique, dans les zones, les réseaux sociaux sont moins développés, c'est plus léger, il n'y a pas de soucis sur ça.
Merci Pascal de nous avoir appelé. Vous maîtrisez très très bien le français, c'est grâce au continent africain?
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, on est ravis de vous avoir accueilli. Un autre auditeur nous appelle de Conakry, bonjour.
Bonjour, c'est Mme Bastille.
Alors je sais plus moi si on doit donner du coup les prénoms de nos auditeurs, vous donnez les prénoms que vous voulez, hein. Depuis le nouveau règlement général.
Cool, oui.
D'accord. On vous écoute. Vous voulez peut-être rebondir par rapport à ce que disait Pascal, qui avait l'air de dire qu'effectivement, depuis qu'il avait retrouvé la situation et le flicage chinois sur Internet, après plusieurs années passées en Afrique, ça faisait un drôle d'effet.
Oui, effectivement, Emmanuel Bassil. Et vous savez, les réseaux sociaux sont non seulement chronophages, mais aussi, du coup, les gens ne se rendent pas compte des dangers que cela peut avoir, surtout en Afrique ou en Guinée-Conakry ici. C'est pourquoi moi, je prends des précautions, parce que je sais que les données, tout ce que je vais poster sont stockées dans les données, et raison pour laquelle j'essaie de me protéger le mieux que possible.
Vous pensez à quoi exactement? Vous pensez à des opinions politiques sur les réseaux sociaux?
Oui, non seulement à mes opinions politiques, mais aussi à mon image, parce que l'image compte beaucoup. Quand on prend ici en Guinée, il y en a énormément de personnes qui sont sur le réseau social Facebook,
oui.
Mais ils aiment mettre des images qui ne sont pas assez jolies à voir, ce qui peut toucher non seulement la sensibilité, mais lorsqu'on devient, par exemple, une personnalité publique de demain, voilà, ça peut être un grand danger pour notre vie à long terme.
Vous avez une question précise à poser par rapport à ça, justement,
oui, oui.
Aux images, à la reconnaissance faciale, toi aussi?
Et oui, effectivement. Ma question est de savoir qu'est-ce que je dois faire pour mieux protéger mes données personnelles, plus particulièrement sur le réseau social Facebook.
Merci beaucoup, Sinkoum, de nous avoir appelé de Conakry. Alors, réaction peut-être sur la Chine, et puis on va répondre à cet auditeur à Conakry. Nathalie Devilliers.
Oui, la Chine, oui, on nous parle, nous, quand on est dans la zone Europe, beaucoup des GAFA, voire des GAFAMI, donc Google, Apple, etc. En Chine, l'acronyme, c'est BATX, B-A-T-X, et ça reprend les noms des sociétés Baidu, qui a été cité, moteur de recherche, Alibaba, c'est l'équivalent d'un e-commerce très connu, voilà. Tencent, c'est une société de télécommunications, et la société Xiaomi. Et en fait, en Chine, c'est très simple, par exemple, vous téléchargez, je crois que c'est WeChat, on vous dit tout de suite, de toute manière, ce site appartient à la Chine, cette application aussi, et tout ce que vous utiliserez à travers cette application nous appartient. Donc là, par contre, c'est très transparent.
C'est-à-dire que le flicage est très transparent.
Tout de suite, on vous prend les données, et en plus, derrière, ça génère un score social, vous en aviez peut-être déjà parlé
tout
sur votre antenne,
oui.
Et donc ce score qui peut bloquer l'accès à une école, ou qui peut favoriser...
Voir la liberté de voyager même. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une expérience.
Si on est mal noté socialement. Et donc la note sociale peut effectivement être, entre autres, basée sur le comportement sur Internet.
Tout à fait, puisqu'en fait, tout est analysé. On va analyser vos likes, on va analyser tous les émoticônes qui sont de plus en plus nombreux pour exprimer des émotions, et puis naturellement, les mots que vous employez. D'ailleurs, Facebook avait été mis sur la place publique il y a quelques années par le journal The Australian, qui avait eu accès par un lanceur d'alerte à un document qui montrait que Facebook avait manipulé les murs de ses utilisateurs pour influencer leurs émotions et puis ensuite pour dire à ces annonceurs, vous voyez, on est capable de repérer tel et tel profil. Alors c'était pas pour qu'on se sente tous mieux dans notre peau, hein, et donc ça avait été décrié. Donc oui, effectivement, alors bien sûr maintenant Facebook, la reconnaissance faciale, plus il y a d'images, plus ce sera fin, plus ce sera précis. Mark Zuckerberg a annoncé qu'il se lançait dans une technologie qui s'appelle la chaîne de blocs, qui permet d'archiver pour toujours ces informations. Donc pour le moment, on peut demander un effacement et retirer certaines photos, c'est déjà assez compliqué. Donc c'est
ça pose un vrai problème, notamment dans les manifestations politiques sur la reconnaissance faciale. Tristan Mendès France.
Oui, sur la Chine de façon aussi assez basique. La Chine n'est pas une démocratie comme on l'entend ici en Europe, évidemment. Et la liberté d'expression est évidemment très limitée là-bas. Et donc quand on est sur ces différentes plateformes ou qu'on risque de s'exprimer sur ces différentes plateformes, évidemment, le couperet de la censure est absolument gigantesque là-bas. Donc on n'est pas du tout dans un espace de liberté d'expression comme on peut l'entendre chez nous en Europe.
Sur la gestion de l'image, sur un réseau social comme Facebook, puisque c'était la question de notre auditeur à Conakry.
Alors, il y a plusieurs choses. Il faut aller s'embêter et regarder dans les options de paramétrage et de décocher le maximum de choses qu'on comprend, parce que c'est pas toujours très compréhensible. Il y a des façons d'être identifié, d'être tagué. D'ailleurs, la reconnaissance faciale, on peut aussi la désactiver. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il faut passer du temps et tout le monde n'a pas que ça à faire, je le comprends bien. Mais c'est une prise de conscience.
Vu le nombre d'heures passées sur Facebook, oui, c'est vrai. on pourrait en soustraire quelques-unes pour aller dans les paramètres.
C'est toujours un peu moins alléchant et moins intéressant. Mais disons que le conseil de base qu'on pourrait donner, d'abord, enfin, de façon très très générale, dites-en le moins possible sur des choses personnelles. Utiliser ces plateformes, notamment les réseaux sociaux, qui sont vraiment les nouveaux sites web, les blogs d'aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde a son profil sur plusieurs réseaux sociaux. Moi, le conseil que je donne à mes élèves, simplement à la fac, c'est de ne mettre dessus que des choses qu'on considérerait comme étant publiques. Des choses qui ne pourraient pas nuire si un futur employeur devait voir ce qu'on avait mis en ligne. Et quelque chose qui n'offense pas, évidemment, ses proches et ses amis.
On n'a pas encore vraiment parlé aujourd'hui des préoccupations des entreprises. On sait que elles sont hostiles à cette nouvelle réglementation générale européenne. Elles vont être obligées de nommer un responsable de la protection des données, de tenir un registre qui précise quelles données elles stockent, ce qu'elles en font. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, Nathalie Deville, les entreprises en Europe ne sont pas encore équipées, ne sont pas prêtes en fait pour être dans la légalité.
Alors, je voudrais tempérer votre propos introductif. Les entreprises, si elles critiquent le RGPD, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas prêtes à y faire face. Je rappelle que ce règlement a été négocié pendant plusieurs années, qu'il a été publié en 2016 et que depuis 2016, les entreprises savent que le 25 mai 2018, elles doivent être prêtes. Je rappelle aussi que ce règlement est fondé sur une disposition du marché intérieur numérique de l'Union européenne. Les principaux avantages pour les entreprises, c'est avoir un seul cadre juridique au lieu de 28 quand je fais mon e-commerce dans X États membres. C'est avoir une seule autorité de contrôle, une autorité chef de file, plutôt que d'avoir X autorités dans X États membres.
Donc par exemple pour la France, c'est la CNIL. Hein. Donc pour les usagers aussi, françaises. C'est là qu'il faut aller se plaindre.
Pour les personnes physiques, oui. Et dernier avantage très important pour les entreprises, c'est que je n'ai plus à faire de demande d'autorisation à la CNIL pour opérer un traitement sauf cas extrêmement particulier. Donc c'est la libéralisation des échanges, donc la libre circulation des données. Alors oui, quand on donne tous ces avantages aux entreprises, la contrepartie, c'est de renseigner ces fiches de traitement, de créer un registre. Le principe du règlement, c'est l'obligation de rendre des comptes. Et c'est un mécanisme qui est connu dans le monde entier, surtout dans les pays de common law, le accountability. Donc ça veut dire que je dois documenter à tout moment, je dois être capable de dire, ben oui, je suis en train d'opérer tel traitement. Les données vont sur les serveurs aux États-Unis, mais je suis en adéquation avec le cadre juridique et je peux le prouver.
Ouais. Alors, vous n'avez pas parlé du bâton, c'est-à-dire l'amende.
Oui, alors les amendes, là, c'est toujours pareil. On nous indique, donc il y a en fait deux types de sanctions. Des sanctions qui sont administratives, qui seront adoptées par l'autorité de contrôle des données, donc la CNIL, qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global, ou alors 20 millions d'euros, on prendra le montant le plus élevé. Mais il faut savoir que ces sommes sont des plafonds qu'on ne dépassera pas et qu'on prend en considération toutes les éléments.
Ça pourrait concerner quel type d'affaires? Ça pourrait donnez-nous un exemple. Alors bien sûr, on va pas anticiper sur les procès.
Si Cambridge Analytica se reproduit, oui. ça concernera ce type d'éléments. En fait, ça va concerner à chaque fois qu'il y a une
violation d'un
droit,
données qui sont revendues, réutilisées,
oui, parce que,
à l'insu
par exemple,
des usagers,
voilà,
des propriétaires des données.
On a ici une violation de la collecte qui est déloyale, qui est faite pour des finalités qui ne sont pas claires et ensuite qui sont cédées pour
Tristan Mendes France. Rapidement, on a pas mal de questions aussi à vous poser.
Oui, c'est surtout ça concerne évidemment les données particulièrement sensibles, hein, celles sur nos préférences sexuelles, politiques, religieuses. C'est évidemment ces données-là qui sont encore plus encore plus protégées. Oui.
Alors, une question de Gabin à Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo. Quand un site ou un réseau social récupère mes données, que peut-il en faire ? C'est vrai que c'est quand même une question qui revient souvent. À quoi ça peut bien leur servir ? Est-ce qu'on peut répondre très rapidement, même si on y a partiellement répondu ? Ensuite, j'ai une autre question à vous poser de Paolo d'Abidjan.
C'est en gros une exploitation commerciale et ils utilisent votre profil simplement pour pouvoir afficher des publicités.
Alors, il faut dire que ces données-là, sur un internaute, n'ont aucun intérêt, mais sur des millions et des millions, ça se valorise. Si j'ai bien lu, on rapporte les uns et les autres 16 euros par an à Facebook. Alors, ce sont des extrapolations, des calculs, mais c'est à peu près ça. Hein, on rapporte de l'argent à Facebook, on est bien d'accord.
Plus vous cliquez, plus vous contribuez au fonctionnement d'un réseau, plus vous lui rapportez. Si c'est simple, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit.
D'accord, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc ça, c'est à retenir. Question de Paolo à Abidjan. Quel est le réseau social qui protège le mieux mes données ? On dit que c'est WhatsApp. Est-ce vrai ? WhatsApp, c'est Facebook, hein ? Précisons.
Ben alors, la réponse est dans la question.
Non, mais je précise. Mais qu'est-ce que vous répondez aussi, le réseau social qui protège le mieux mes données ?
Là, je peux pas vous dire, c'est en perpétuel changement. Moi, j'utilise que des très gros réseaux sociaux très connus et c'est pas ceux qui protègent le mieux.
Oui, alors sinon, il y a des messageries. Après, ce qu'on appelle réseau social et messagerie, on est à la frontière. WhatsApp, on est un peu à la frontière. Mais sinon, il y a des réseaux sociaux, enfin, des services de messagerie comme Signal, qui sont supposés être très cryptés. Il y en a certains aussi qui vous permettent des choses temporaires comme Telegram, où les contenus peuvent s'effacer au bout d'un certain temps.
Ça, c'est la messagerie des terroristes. C'est comme ça qu'on la connaît. Hein.
Oui, malheureusement, pas uniquement, heureusement. Mais bon, voilà. Donc, il y a des services qui sont plus ou moins cryptés, qui proposent aussi des choses qui s'effacent avec le temps. Et ça,
alors,
c'est peut-être assez utile.
Justement, on en vient, 7 milliards de voisins, vous pouvez bien sûr continuer de nous appeler ou de nous poser des questions via WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on écoute le témoignage d'un ingénieur informaticien dont l'obsession est justement de laisser le moins de traces possible sur Internet. Et pourtant, il n'est pas agent secret.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je peux vous dire que c'est pas facile de trouver sur Internet une personne qui accepte de témoigner de son absence numérique. Par définition, ce sont des voisins un peu méfiants. Notre reporter Alice Milo a fini par rencontrer Marc, alors prénom d'emprunt évidemment, la trentaine, parisien, ingénieur informaticien, on n'en saura pas plus. Régulièrement, il googlise son nom pour vérifier les données qui circulent sur le net sur son identité. Démonstration avec Marc, le fantôme d'Internet.
Voilà, alors là je tape mon nom dans Google, il y a plusieurs personnes qui s'affichent, qui sont des homonymes, ça c'est un homme politique américain.
Sur Wikipédia, il y a une fiche Wikipédia, voilà. Mais c'est pas vous. Hein.
Non, c'est pas moi, et donc moi là je n'apparais nulle part, là sur la... Ah si, là j'arrive là, il y a LinkedIn, qui est un réseau social professionnel.
Donc là il y a une fiche sur vous quand même.
Il y a une fiche sur moi, qui est en fait quelque chose que je suis un peu obligé de maintenir en bon état pour des raisons professionnelles. Voilà, il y a mon parcours académique et professionnel.
On peut savoir que vous êtes ingénieur informaticien, mais on ne peut pas savoir si vous avez femme, enfant, si vous aimez le tennis et les pâtes carbonara, quoi.
Ça me gêne pas d'avoir un profil professionnel en ligne qui met en valeur le travail que j'ai fait toutes ces années. En revanche, je veux qu'il n'y ait rien sur vraiment ma vie privée et familiale. Donc sur tout le reste, vous aurez beaucoup de mal à trouver des choses sur moi. Alors j'ai remarqué quand même que sur Google Images, il y a une photo de moi, qu'il y a une conférence que j'ai donnée, que je suis en train de faire retirer. Donc ça va prendre quelques semaines, mais je suis en contact avec l'organisateur de l'événement. On va retirer ça. Ce que je voudrais éviter en fait, c'est que Google, ou d'autres d'ailleurs, aient des photos labellisées avec mon nom, puisque ça permet de trouver qui est présent, mettons, à des événements publics, pour savoir qui est à une manifestation, par exemple. Ça peut avoir des usages rigolos, hein. Ça a été utilisé par la BBC il y a pas longtemps pour trouver qui était présent à tel endroit du mariage de Harry et Meghan, c'est ça ?
Meghan, oui. Le prince.
Prince Harry. Ça, c'est assez rigolo. Mais en Chine, par exemple, ça a été utilisé dernièrement pour arrêter des gens à des concerts, donc des personnes qui sont recherchées par la police. Le système de vidéosurveillance d'un concert va leur donner une alerte en disant « Ah tiens, il y a telle personne recherchée qui est présente à ce concert. »
Grâce à un système de reconnaissance faciale, c'est ça ?
Voilà.
Qu'est-ce que vous craignez pour vous, en fait ?
Ah, c'est la question de « Est-ce que j'ai quelque chose à cacher ?» Il y a une question de principe, effectivement. C'est pour moi, c'est un droit fondamental qui est mis à rude épreuve en ce moment. Il y a aussi une question tout à fait pratique qui est que j'ai eu des activités militantes à une époque. Ces activités-là peuvent ne pas plaire très clairement à mon employeur. J'ai été cité dans des affaires, des choses comme ça. J'ai pas envie que tout ça ce soit public.
Qu'est-ce que vous mettez vous en place dans votre vie au quotidien pour être le moins apparent possible sur Internet ?
Alors il y a des choses qui sont très simples. Je configure mon navigateur pour effacer tous les cookies après chaque utilisation.
Vous créez une virginité numérique régulièrement.
Voilà, en quelque sorte. J'évite évidemment d'être sur les réseaux sociaux.
Donc, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, rien.
Non, non.
Jamais.
Non, moi j'utilise essentiellement des emails. Alors, là, il y a toute une partie de choses qui sont plus difficiles à faire pour des gens qui ne sont pas ingénieurs, mais moi ça fait des années que j'héberge en fait finalement mon propre cloud sur lequel j'héberge mes emails, mes photos, mes documents, etc. Donc c'est ça qui me permet de les stocker, de les partager avec mes proches.
Donc c'est un cloud, mais qui n'est accessible vraiment que par vous et qui est totalement sécurisé, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Contrairement au cloud que propose Google, par exemple.
Oui, voilà. Donc le cloud de Google, qui est très bien fait d'ailleurs, hein, je m'en sers professionnellement. Il n'y a aucune garantie de vie privée là-dessus, au sens où les ingénieurs de Google peuvent avoir accès à vos données assez facilement.
Est-ce que ça vous arrive de faire des achats sur Internet ?
Oui, voilà. Alors, c'est compliqué hein, de tout protéger. Donc effectivement, en Europe, on est relativement bien protégé à ce niveau-là. Pour avoir vécu aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. Et donc aux États-Unis, votre banque va revendre toutes vos données de consommation à tout un tas d'acteurs. Donc on perd très très vite le contrôle de ça.
Ce qui permet ensuite de faire de la publicité ciblée en fait. Hein.
Oui, oui, exactement.
Vous avez une vie de famille, vous avez une compagne qui elle a un Facebook, puisque c'est quand même grâce à elle que je suis arrivée jusqu'à vous. Donc vous pouvez pas tout contrôler. Est-ce que vous demandez aussi à vos proches de rentrer dans votre jeu ?
Alors certains sont tout à fait prêts à jouer le jeu. Alors par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Signal pour chatter avec mes proches, qui propose un système de cryptage de bout en bout. L'opérateur de l'application n'est pas en mesure de voir ce qui se passe, ce qui communique dessus.
Ça veut dire que les conversations restent totalement privées.
Exactement.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu parano ?
Ah, cette question, on me la pose de moins en moins. On me la posait il y a beaucoup plus, il y a 10 ans. Et c'était avant les révélations d'Edward Snowden.
Donc Snowden, le donneur d'alerte. Hein.
Oui, oui. Et en fait, depuis ces révélations, on se rend compte que non seulement on avait complètement raison, et que c'était bien, bien pire que ce qu'on craignait. Et ça, c'est pas le fait de gouvernement totalitaire, hein, c'est le fait de démocratie. Voilà, l'actualité a confirmé nos pires craintes.
Alors Marc, est-il parano, prudent ou réaliste, Nathalie Devilliers ?
Il est tout à fait réaliste, il fait quelque chose que chacun devrait faire, mettre son nom, son prénom et son nom, entre guillemets, sans aucun adjectif, dans un moteur de recherche et protéger sa irréputation. Car plus on laisse de traces, plus on peut remonter sur votre vie privée, c'est bientôt les vacances. Imaginez si je poste ma carte d'enregistrement pour le vol à destination de X. Bienvenue à tous les cambrioleurs qui sauront que 1, je suis pas chez moi, 2, je suis très loin, donc ils auront largement le temps de tout cambrioler. Oui, c'est il y a des
donc
des
je répète le conseil, on met son prénom et son nom entre guillemets sur un moteur de recherche pour voir ce qui se passe.
Vous voyez ce qui tombe, et c'est après s'il y a un contenu qui vous paraît obsolète, un ancien CV ou alors un contenu qui est gênant,
alors,
une ancienne
comment
vidéo.
Comment on fait pour le faire effacer concrètement ?
Alors il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est ce que vous voyez dans le moteur de recherche, c'est le résultat d'un référencement, c'est-à-dire que le moteur est allé chercher dans des bases de données quelque chose avec votre nom et votre prénom qui est tagué quelque part. Donc En fait, ce que vous voyez est à deux endroits. Il est auprès de l'hébergeur qui détient le support, en fait, le contenu. Donc, il faut arriver à identifier quel est le site qui avait posté cet élément-là et donc lui demander de l'effacer. Et puis ensuite, il faut demander au moteur de recherche de déréférencer le lien qui permet d'aller vers la ressource, puisque ce sont bien deux choses distinctes.
Aujourd'hui, même si on est sur des entreprises qui ne sont pas, qui ne dépendent pas du nouveau règlement général européen, elles doivent accepter de vous déréférencer.
Déréférencer, oui, tout à fait. Mais il y a un problème. Il y a toujours un petit souci avec Google.
Oui, on a compris. Il faut Google, y passer du temps et d'énergie.
Non, il y a surtout que Google, lui, passe beaucoup de temps et d'énergie à faire des procès. Donc, il y a un mois, Google avait sorti son rapport de transparence disant qu'il avait donné droit à X demandes d'effacement. En réalité, ce que Google a oublié de vous dire, c'est que au lieu du droit à l'oubli, c'est plutôt l'oubli du droit pour Google, puisqu'il refuse d'enlever vos contenus. Par exemple, je suis française, je suis résidente en France, ils vont retirer le résultat du site google.fr. C'est-à-dire que si je me connecte chez mes voisins, oui. Mes 7 milliards de voisins, j'aurai toujours la ressource.
Merci Nathalie de
Internet est global.
Pour toutes ces infos pratiques, Tristan Madens France, vous avez le mot de la fin. Quand on entend ce témoignage, on se dit quand même que, il nous le disait, il a été considéré, Marc, longtemps comme paranoïaque. Aujourd'hui, c'est toute une opinion mondiale qui est en train de changer, de se retourner. Que va-t-il en sortir?
Je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec ma camarade là ici, il est parfaitement réaliste hein, dans sa posture. Absolument une petite réserve par rapport à ce qu'il disait. Il disait, moi, j'évite d'être sur les réseaux sociaux, qui sont évidemment parmi probablement le pire au niveau des données personnelles, de la gestion de vos données personnelles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement du travail, je forme beaucoup d'étudiants à la fac, qui partent sur le marché du travail, et ils sont contraints d'être présents, notamment sur Facebook. Tout le monde n'a pas envie d'être sur Facebook, mais si on veut trouver un job de community management, d'une page Facebook, d'une entreprise, et pourquoi pas celle de votre émission, eh bien, il faut que quelqu'un ait un profil Facebook. Donc, il y a une sorte d'injonction dans l'environnement professionnel parfois à être présent.
Ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, justement, pour conclure, le message de cet internaute qui est Abdoul à Abidjan, qui nous dit la collecte de données personnelles n'est pas forcément négative, ça aide beaucoup en matière de marketing, de e-commerce. Et c'est vrai que ça va être compliqué à l'avenir dans un commerce de plus en plus numérisé de naviguer entre les réglementations et puis pas seulement la nouvelle réglementation générale européenne, mais finalement une forme d'injonction aussi, de quelque chose de plus transparent, de plus propre, de plus moral. Ça va être compliqué pour les entreprises, non, Tristan Mendes France?
Je crois que tout ça est une question d'équilibre. Le droit à l'oubli, la transparence, c'est pas quelque chose de noir ou blanc. C'est une dynamique qui doit s'opérer. Il y a plusieurs questions. Le droit à l'oubli, il est légitime, mais parfois pas forcément légitime. Hein. Si un homme politique dit quelque chose de scandaleux il y a quelques années, j'ai envie de le savoir et j'ai pas envie qu'on l'oublie.
D'ailleurs, il ne peut pas réclamer quoi que ce soit à la CNIL en tant qu'homme politique.
Non, en tant qu'homme politique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un équilibre et que dans tous ces concepts-là, il y a toujours deux versants. Et ce qu'il faut, c'est que l'un ne l'emporte pas sur l'autre. Et cette initiative du RGPD est une tentative de contrebalancer ce libéralisme des données qui sont devenus des objets commerciaux.
Pour tous les voisins qui nous écoutent, quand ils postent sur les réseaux sociaux, ils font comme s'ils étaient à l'antenne, hein, finalement. Donc voilà, on se met pas les noix dans le nez, par exemple, et donc on ne poste pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ailleurs. Mais bien évidemment, on l'a compris, c'est plus compliqué. J'espère qu'on a pu quand même vous donner quelques éléments concrets dans cette émission. Merci en tout cas à tous les deux. Pour la précision de vos réponses, Nathalie Devilliers, juriste chronique à Jurygeek sur le site indépendant The Conversation. Je vous recommande cette chronique. Merci à vous Tristan Mendes France, enseignant au CELSA, l'école de journalisme et de communication à Sorbonne Université sur les nouveaux usages du numérique. Merci aussi à toute l'équipe qui a préparé cette émission, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. Elle ne s'efface pas tout de suite, elle reste quelques jours à la rubrique magazine et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des déchets en Afrique. Des entreprises africaines s'intéressent de plus en plus aux déchets. Peuvent-elles vraiment améliorer la gestion des déchets dans les villes africaines? À quelles conditions? Quelle est la situation chez vous, les voisins? Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À demain.